Nous accueillons le docteur Rein, gynécologue obstétricien, qui va nous parler de sa méthode d'accouchement.
Voilà, bonjour. Alors, je me présente un petit peu. En effet, je suis gynécologue obstétricien. Au départ, de formation très classique, enfin très technique. Et puis actuellement, je suis un peu à cheval sur, entre la technique et la psychologie. Et j'ai en effet écrit un livre sur la naissance, qui est sorti il y a 2 ans. Et puis on a fait un film, je dis on parce que c'est Caroline Tresca qui a fait ce film sur l'infertilité, puisqu'on avait mis en place dans le centre d'aide médicale à la procréation de Grenoble une prise en charge qui tenait compte bien sûr de la technique mais aussi de la psychologie, ce qui est assez rare dans la prise en charge de l'infertilité. Je voudrais aujourd'hui donc vous parler de, en même temps un peu de ce livre, Le Nouvel Accouchement, mais je voudrais plutôt vous dire où en est cette recherche actuellement parce que c'est quelque chose qui est en cours et donc je vais vous parler un petit peu de la suite de ce livre. Le livre, vous pourrez le prendre si vous voulez, mais la suite, je vais vous en parler maintenant. Pourquoi nouvel accouchement ? C'est pas un nouveau point de vue technique, je vous disais, c'est un point de vue plutôt du côté de la psychologie. Mais c'est quelque chose qui s'appuie sur la technique, c'est-à-dire que c'est grâce au fait qu'actuellement l'accouchement est techniquement bien surveillé, que nous pouvons proposer cette approche plus humaniste, on va dire, plus psychologique. Mais, bien sûr, on s'appuie surtout de la technique, mais en dehors de ses excès. L'excès de la technique, c'est proposer, comme je l'avais vu faire il y a quelques années dans une revue, un accouchement où on ferait rentrer les femmes 15 jours avant pour être sûr qu'elles ne sont pas en travail, leur faire d'abord une péridurale, leur mettre ensuite des contractions avec une perfusion et ensuite une télévision pour qu'elle ne s'ennuie pas pendant les 8 heures de travail. Ça, c'est l'excès de la technique, ce qui ne veut pas dire qu'aucune de ces différentes techniques que sont la péridurale, le déclenchement sont des mauvaises choses. Ça veut dire qu'utiliser dans un but qui est gommer l'accouchement, ce n'est pas forcément l'acte que nous avons pris. Donc il y a 2 ans, je vous aurais parlé du nouvel accouchement, d'après ce qui est dans mon livre, c'est-à-dire du point de vue du bébé. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment par hasard que je me suis intéressé à ça. C'est parce que j'ai toujours fait un travail sur moi-même à travers la psychanalyse freudienne et puis différents autres types de recherches. Et c'est un peu par hasard qu'au cours d'un travail par la psychanalyse corporelle, j'ai recompris la naissance d'un point de vue, du point de vue du bébé, j'allais dire. Non plus du point de vue du gynécologue, de la sage-femme, ou même du père, ou même de la mère, mais du point de vue du bébé. Et c'est un point de vue qui me semble manquer quand même. Et ça m'a posé question parce que je vous dis, j'étais vraiment dans la technique pure et dure et tout d'un coup, se dire, bon, il y a peut-être un autre point de vue sur l'accouchement, c'était pas très simple comme démarche, tout au moins personnellement. Ce qu'on avait trouvé avec donc cette psychanalyse corporelle, c'était qu'en fait, l'enfant retraversait un certain nombre d'étapes, toujours les mêmes, à travers l'accouchement, mais bien sûr, vécu de façon particulière, puisque chaque enfant est unique, chaque enfant est particulier. Donc oui, il y a un schéma général qui est le même, mais chacun le vit à sa façon, chacun de façon particulière, puisque chacun est un être unique. Le point principal, c'est que cette expérience est très complexe, naître est très complexe pour un enfant, il s'affronte à un certain nombre de difficultés psychiques, physiques bien sûr, mais psychiques. D'ailleurs, en fait, les deux sont en écho, ce qui se passe physiquement a une répercussion psychique, ou bien ce qui se passe psychiquement a une répercussion physique, je ne sais pas comment le dire. Tout ce qu'on sait, c'est que les deux sont vraiment en phase. C'est-à-dire que l'enfant, ce qui se passe dans son corps, ça se passe dans son esprit. Alors que nous, on ne vit plus du tout dans ce monde-là, puisque vous pouvez très bien être en train de m'écouter, et puis enfin, être là, en principe, en train de m'écouter, puis en train d'être pensé, vous pouvez penser à autre chose. On a la capacité d'être là physiquement et de ne pas être là psychiquement, ce qui n'était pas possible pour l'enfant dans le ventre de sa mère, et non pas dans le ventre de sa mère, au cours de l'accouchement. Dans le ventre de sa mère, j'en sais pas grand-chose. Donc à partir de là, c'est ce que je développe dans mon livre, ayant compris que l'enfant s'affronte à un certain nombre d'expériences, ayant compris que ces expériences sont complexes, difficiles, et puisque nous aimons ces enfants que nous avons fait venir, eh bien, on va essayer de les aider, de les accompagner. C'était tout le principe de mon livre. Et puis, au fil de la préparation que je propose depuis donc maintenant une dizaine d'années, on s'est rendu compte que dans la pratique, il y avait certaines difficultés, et ces difficultés étaient dues principalement au fait que la mère aussi rencontre des difficultés dans l'accouchement. Et alors on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe psychiquement dans l'accouchement, à partir du moment où le travail démarre, qu'est-ce qui se passe dans le psychisme d'une femme qui fait qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître assez bizarres qui arrivent, et c'est ça plutôt que je vais vous expliquer aujourd'hui et qui n'est pas donc dans mon livre. Donc, on ne va pas donner le point de vue de la mère, parce que le point de vue de la mère, on le sait, on l'interroge en postnatal, on sait ce qu'elle pense de son accouchement. Ce n'est pas tellement ça qu'on a cherché à comprendre, c'est ce qui se trame dans son psychisme. Qu'est-ce qui se passe dans le psychisme, donc dans le subconscient, parce que le reste, elle en parle quand c'est conscient, mais dans le subconscient, et qu'on a essayé de lui faire mettre en mots pour essayer de comprendre ce qui se passait. Alors, les étapes physiques, on les connaît, hein. Il y a la mise en travail, il y a l'effacement du col, il y a la dilatation du col, et puis il y a la sortie, il y a l'expulsion, il y a l'arrivée de cet enfant. Il y a un certain nombre de repères extérieurs qui sont pas très complexes. Mais en fait, je vous disais, nous, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est en face de ces étapes physiques, qu'est-ce qui se passe psychiquement? Et pour ça, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la curiosité. Moi, je suis très curieux, et quand je comprends pas, j'ai envie de comprendre, et du coup, ça me donne une espèce d'écoute, d'attention à tout ce qui m'est dit, qui fait que ça se range dans une espèce de boîte. Et dans cette boîte, il y a des choses qui sont contradictoires, des choses que je ne comprends pas, beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais c'est comme si avoir accepté de rien comprendre pendant longtemps fait qu'au bout d'un moment, les choses commencent à prendre forme. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à quelque chose qui m'est apparu comme d'une extrêmement grande cohérence il y a quelques mois. Par exemple, moi je sais qu'au début de ma pratique, quand une femme disait certaines choses dans son accouchement, par exemple elle disait « Docteur, je vais mourir », on leur disait « Non, vous n'allez pas mourir, arrêtez, vous n'allez pas mourir ». Ça s'est arrivé dans le temps qu'on meurt, on ne meurt plus en accouchant, enfin sauf cas exceptionnel. Et j'allais dire qu'au bout de 10-20 fois qu'elle nous disait ça, ça commençait légèrement à nous trouver ça un peu agaçant, alors que nous on leur expliquait dans le prénatal qu'elle ne risquait rien, qu'on allait surveiller, que tout allait bien. Et puis à un moment, j'ai pris carrément une autre optique, je me suis dit « Bon ben, au lieu d'essayer de lutter, je vais essayer de comprendre ». Et donc tout ce qu'elles ont dit dans l'accouchement, j'ai écouté avec grande attention, en me disant que c'est forcément que ça parlait de quelque chose qui se passait dedans, et que si je voulais comprendre, il ne fallait pas être contre, mais pour. Et d'ailleurs, j'ai fait ça aussi pour la grossesse, j'ai fait ça pour l'accouchement, pour le postnatal, ce qui fait que j'ai fini par comprendre quelque chose à l'accouchement, puisque étant un homme, je ne pouvais rien y comprendre autrement. Donc, première chose, la curiosité. Et donc, je vous disais, j'ai amassé comme ça des indices. Et puis, il y a quelque chose sur lequel aussi on a beaucoup travaillé, c'est, je ne sais pas comment appeler ça, des ateliers, où on s'était réuni un groupe avec des sages-femmes, avec des femmes qui avaient accouché, et puis on essayait de, à partir de ce qu'on avait déjà aperçu des étapes de l'accouchement, on essayait de voir ce que chacune en pensait à travers son expérience personnelle, et d'essayer de faire prendre une espèce de mayonnaise. Et là, on a vraiment commencé à comprendre quelque chose, parce qu'on n'avait pas une seule vision, on avait 4-5 femmes qui avaient accouché, des sages-femmes qui avaient assisté à beaucoup d'accouchements, et j'allais dire, à partir du moment où tout le monde disait « Ah ben oui, là c'est comme ça », on disait on a un peu plus de chance d'être proche de quelque chose que quand il n'y en a qu'un seul qui pense que ça doit être juste. L'autre point qui m'avait intéressé beaucoup aussi, c'était le suivant, c'est qu'il y a une période où moi, quand j'ai commencé à l'obstétrique, il n'y avait pas de péridurale, il n'y avait pas de technique d'analgésie. Et quand on envoyait les femmes en postnatal, on se demandait toujours si elles n'étaient pas marquées à vie, parce qu'on en trouvait quelques-unes, peut-être, je ne sais pas, je dis 1, 2%, qui étaient tellement marquées par la douleur qu'elles disaient « je n'aurai plus jamais d'enfant » et ça posait même des problèmes sur la sexualité. Et puis nous, on ne se sentait pas très fiers d'avoir accompagné ces femmes dans un accouchement qui laissait une trace aussi grave. Alors, c'était très rare, mais c'est un petit peu ce qu'on cherchait à... Enfin, moi, tout au moins, ce que je cherchais à apprécier dans le postnatal. En fait, on se rendait compte de choses assez étonnantes, là aussi, qui ont alimenté ma réflexion, notre réflexion. C'est des femmes qui disaient « Ah, vous savez, le travail, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Hein. Les contractions, comme ça, on ne peut rien faire, c'est vraiment une horreur. Hein. Alors, l'expulsion, c'est rien du tout. Hein. Alors, l'expulsion, enfin, on peut faire quelque chose, c'est magnifique. » Puis d'autres qui vous disaient « le travail, c'est rien du tout. Hein. C'est les contractions, bon, c'est pas un drame. Hein. Mais alors, l'expulsion, c'est vraiment la pire des horreurs. » Alors, on se dit, tiens, déjà, dans le vécu, il y a des choses différentes, donc il y a quelque chose qui, pour certaines, est une agression, pour d'autres pas, donc il faudrait qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Et puis, quand on regardait ce que disaient ces femmes en postnatal par rapport à ce que nous, on avait dans le dossier, ou ce que pensait la sage-femme, on s'apercevait qu'il y avait des très grandes discordances, donc que réellement, le vécu intérieur devait agir de façon très très puissante sur l'accouchement. Puis, il y avait une autre chose aussi qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est qu'en fait, les couples, je vais parler surtout des femmes parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais bien sûr qu'elles sont liées à l'homme et que c'est un couple qui se présente à l'accouchement, mais en fait quand même c'est la femme qui accouche, c'est pas l'homme jusqu'à maintenant. Et c'est quand même dans leur corps que ça se passe, et c'est en elles que ça se passe. Et que dans les femmes qui venaient me voir en consultation, j'ai remarqué qu'il y avait un certain nombre de façons d'arriver devant cet événement qui était très différent et qui faisait des accouchements très très différents. Il y avait par exemple un pourcentage de femmes qui arrivent en ayant comme seule vision de l'accouchement la peur de la douleur, et que cette peur est tellement intense, peut-être parce qu'elles ont eu une expérience comme ça avant, cette peur est tellement intense qu'elle occulte tout le reste. Et que donc il va d'abord falloir élaborer cette peur, voir ce qu'il y a derrière, avant de pouvoir commencer à faire quelque chose. Mais ça, ce n'est pas la plus grande tranche, c'est une minorité. Il y a une autre catégorie de femmes pour qui l'accouchement est quelque chose de naturel, et que de ce fait, ça ne nécessite pas de préparation, puisque de toute façon, les femmes ont toujours accouché comme ça, et que donc il n'y a pas à s'en occuper, tout va se passer au mieux. Ce qui quelquefois est vrai d'ailleurs, puis quelquefois pas. Et puis il y a une grande catégorie, moi c'est celle que j'ai dans ma clientèle, que j'avais, puisque je ne suis plus dans la même région maintenant, mais c'est celle que j'avais dans ma clientèle qui s'inquiétait beaucoup de leur confort, et qui s'inquiétaient en même temps de ne pas avoir mal, et puis en même temps de l'esthétique, de que leur corps ne soit pas trop marqué. Donc il y avait un souci pour elles. Et quand on parle de ça avec les sages-femmes, et il n'y en a aucune qui m'a contredit, c'est ce genre de femme, de couple, et il n'y a aucun aspect péjoratif dans mon exposé là-dessus, ce n'est pas le but, mais qui en arrivant s'inquiète de savoir si elles auront la péridurale, si elles ont bien une chambre seule, et si elles ont la télécommande de la télévision. Quand je dis ça, ça fait rire, mais ça fait pas rire les sages-femmes parce qu'elles, elles l'entendent, ça. Donc il faut comprendre que c'est par défaut, c'est pas les femmes qui sont en cause là-dedans, ni les couples. C'est nous, les professionnels, qui n'avons pas su leur expliquer les choses. Enfin, moi, je l'ai toujours entendu de ce point de vue-là, comme ça. Comment se fait-il qu'une femme que nous avons vue pendant 9 mois, on n'ait pas été capable de leur faire pressentir qu'il y a quelque chose qui est d'une autre dimension dans l'accouchement, et que arriver avec cette seule inquiétude, on peut le comprendre, mais en même temps, il y a d'autres dimensions et c'est un peu dommage de passer à côté. Il y a une autre catégorie qui ont quelque chose qui est très touchant d'ailleurs, c'est cette espèce d'envie de vivre à deux une expérience très forte. Et déjà là, il y a quelque chose qui arrive différemment et on sent qu'il y a une espèce d'intimité dans ce couple et qu'ils ont vraiment en même temps un peu peur de cet événement, bien sûr, parce que c'est des choses inquiétantes, mais en même temps, une grande envie de vivre quelque chose de fort ensemble. Et puis il y en a quelques-unes, et là, ce n'est pas du tout la majorité, mais il y en a quelques-unes pour qui il y a quand même comme préoccupation principale que c'est accueillir un être unique, qu'il y a quand même un enfant qui arrive, et on sait bien que chaque être est unique par ses chromosomes, par sa personnalité, peut-être par d'autres choses encore, et qu'elles ont quelque chose qui est tourné déjà vers cet enfant, vers l'accueil de cet enfant, et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour que ça se passe au mieux pour lui. Donc j'allais dire qu'il y a cette catégorie, elles s'inquiètent déjà pour leur enfant. Or, si je dis que ce n'est pas la majorité, enfin tout au moins dans la population des femmes que je suivais, c'est parce que c'est assez rare que quand on demande la péridurale, on demande si l'enfant lui va sentir quelque chose ou pas. Or, c'est évident que quand on fait une péridurale à une femme, elle n'a peut-être pas mal, mais l'enfant lui n'a pas de péridurale et continue à percevoir tout ce qui va se passer dans la naissance. Et c'est assez rare qu'au cours d'une péridurale, une femme, un couple s'inquiète de ce que sent l'enfant, ou alors c'est très très fugitif. Mais vous en avez pour qui c'est quelque chose de très important et qui ont réellement un souci de ce qui arrive à cet enfant et de qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour faciliter au mieux les choses. Il y a un autre point qui nous a beaucoup intéressé, et si je vous le dis, ça va être important pour la suite, c'est en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait une similitude sur certaines étapes entre ce qu'on avait déjà établi dans les 7 étapes de la naissance, qui fait l'objet de mon livre, et puis ce que je vais appeler peut-être les étapes de l'accouchement. Et en particulier, on s'est rendu compte très vite que pour la première étape, il y avait des choses qui étaient réellement en concordance, pour la deuxième aussi, et puis pour une certaine partie de la quatrième qui correspond au moment où l'enfant sort, et qu'il y avait là quelque chose qui manifestement était en écho. Mais pour le reste, absolument pas. Donc, on avait à travers ça le pressentiment qu'il y avait une logique, quelque chose qui démarrait avec la mise en travail, et qu'il y avait une certaine logique, mais que cette logique ne suivait pas exactement, a priori, celle de la naissance. Schéma général, mais pas le même. On va voir ça, et qu'il y avait un vécu particulier, puisque là aussi chaque femme est unique, et que, en effet, certaines femmes passaient une étape très facilement. Je vous disais tout à l'heure, pour certaines, les contractions, ben, c'est pas grand-chose, ça se passe bien. Par contre, l'expulsion est quelque chose de terrible. Puis pour d'autres, c'est l'inverse. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il se passait quelque chose dans ces étapes qui, pour certaines, étaient difficiles, bien évidemment, à cause de leur vécu intérieur et peut-être de leur passé, c'est ce qu'on va voir. Et que donc, schéma général le même, mais un vécu particulier pour chaque étape. Ce que je voudrais bien aussi préciser avant de vous parler du cœur de ce qu'on a trouvé, c'est que je ne vais pas vous parler des 80% de femmes que je vois en consultation, et, ou tout au moins en accouchement, puisque j'accouche des femmes que je n'ai pas préparées, et pour qui l'accouchement est surtout un souci pour elles-mêmes. Je vais vous parler de celles qui se sont engagées à fond dans l'expérience, et au fond, je vais essayer de vous parler du sommet de cette expérience. Qu'est-ce qu'on peut en attendre quand on a décidé d'en faire une expérience extraordinaire, c'est-à-dire de s'y engager à fond. Et pour vous faire comprendre ça, je compare souvent l'accouchement à l'ascension du Mont Blanc. Parce que je crois que réellement, dans cet exemple, il y a quelque chose qui est une image qui peut beaucoup aider à comprendre. Et si vous avez un ami qui vient vous dire « Demain, je vais monter au Mont Blanc », vous pouvez lui dire « Écoute, c'est un peu ridicule parce que moi, j'ai un autre copain qui a un hélicoptère et il va t'emmener en haut de ton Mont Blanc et tu auras la même vue que si tu étais monté à pied. Mais tu ne prendras pas de risque de te faire mal, tu ne prendras pas de risque de souffrir, tu ne prendras aucun risque et au fond, tu auras une vue magnifique, je te redescendrai, en plus tu vas gagner du temps. » Vous comprenez que votre copain alpiniste, il va vous regarder un peu ébahi et vous dire, il va penser que vous n'avez pas bien compris le problème. Parce que le but, c'est pas d'être que en haut du Mont Blanc. Le but, c'est de monter, non pas du tout de souffrir, de monter et de vaincre quelque chose de soi-même. Il faut bien comprendre que le plaisir en haut du Mont Blanc, c'est pas juste la belle vue qu'il y a. Le plaisir en haut du Mont Blanc pour l'alpiniste, c'est être arrivé en haut en ayant vaincu pas à pas quelque chose de lui-même. Donc, le problème se pose de la même façon pour l'accouchement. Est-ce que le but, c'est que l'enfant soit sorti? Ou est-ce que le but, c'est de quelque chose qui va se rencontrer, va s'engager, va vaincre quelque chose de lui-même et finalement arrivera, comme au sommet du Mont Blanc à pied, avec quelque chose qui sera non seulement la belle vue, mais un immense plaisir. Donc de toute façon, il y a du plaisir en étant en haut du Mont Blanc, comme il y a du plaisir en ayant accouché. Mais j'allais dire qu'il est possible d'atteindre un surcroît de plaisir, et quand je dis surcroît, c'est vraiment immense comme distance. C'est parce que je ne sais même pas si j'arriverai à traduire ce que certaines femmes ont vécu, tellement c'est élevé dans l'expérience et c'est magnifique. Mais j'essaierai un peu maladroitement, parce que je suis un homme et que finalement je ne l'ai pas vécu moi-même. Elles ont réellement quelque chose qui va, grâce à cette expérience, leur révéler une facette d'elles-mêmes qu'elles ne connaissaient pas, et peut-être même de leur enfant. C'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc je vais vous parler des étapes de ce qui se passe, de ce qui peut se passer. Parce qu'après, vous verrez qu'il y a des différences selon les femmes, puisque chacune le vit de façon personnelle, mais qu'il y a quand même une expérience qui se passe pour un schéma général, et c'est de ce schéma dont je vais vous parler. Il y a la première partie des choses, qui est la mise en travail, le moment où les contractions démarrent. Et cette mise en travail, c'est le moment où les contractions deviennent régulières, de plus en plus régulières. Et la femme va donc être confrontée, il va se passer en elle quelque chose qui va dire ben, « c'est le moment ». Et ce « c'est le moment », il va avoir un premier niveau de conséquences, c'est que dedans, il va immédiatement arriver deux catégories qui sont assez faciles à... Bon, qui sont un peu, bien sûr, c'est un peu arbitraire de séparer les choses comme ça, mais que les obstétriciens reconnaissent très facilement, c'est ces femmes qu'on a déjà vues au 9e mois et qui disent « écoutez, docteur, j'en peux plus, il faut que j'accouche, c'est trop, cette grossesse, j'en peux plus, quoi. Jusque-là, ça allait, mais là, c'est trop difficile, vivement que j'accouche ». Et puis celles qui ont, à l'inverse, très très peur d'accoucher, et bien là, il va se rencontrer quelque chose de même nature, c'est enfin ça se met en route, il était temps parce que j'en avais assez de cette grossesse, et on peut très bien le comprendre, on peut tout à fait le comprendre. Ou alors, quelque chose qui va avoir peur et dire, non, avec tout ce qu'on m'a raconté sur l'accouchement, surtout pas, j'ai horriblement peur. Donc quelque chose qui sera plutôt pour l'accouchement ou plutôt contre. Mais ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Ça fait partie de l'histoire de chacun, de comment il est construit, comment les choses s'inscrivent en lui, et on ne peut pas faire grand-chose, mais ces femmes peuvent au moins l'observer et puis le pressentir en fonction de leur fonctionnement déjà au 9e mois. Mais c'est ce que j'appelle la façon dont elles vont se présenter dans l'accouchement. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pour ou plutôt contre, et là, on reconnaît tout à fait quelque chose qui est similaire aux étapes de la naissance, donc des étapes vues du point de vue de l'enfant, qui lui va se retrouver dans pour ou contre sa naissance, mais on va rester sur l'aspect de ce qui concerne la femme. Et je vous disais tout à l'heure aussi qu'il y a plusieurs catégories de femmes qui, dans leur conception qu'elles ont de l'accouchement, celles qui ont peur, vous vous rappelez, celles qui ont du souci surtout pour elles-mêmes, comment est-ce que cette chose pourrait être le mieux possible pour elles, et puis celles qui s'inquiètent pour leur enfant, en plus de s'inquiéter pour elles, parce que c'est un ensemble de choses, c'est pas s'inquiéter que de l'enfant, c'est plusieurs choses qui les préoccupent, elles-mêmes, leur conjoint peut-être aussi, cette intimité qu'ils vont vivre ensemble, et puis cet enfant qui arrive. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, dans cette première étape de l'accouchement, il y a quelque chose qui va être très très important, c'est la façon dont elles vont se situer dans leur accouchement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de constater qu'elles sont plutôt réticentes à ce qui va arriver, ou plutôt heureuses de ce déclenchement du travail, mais quelque chose qui va être extrêmement important et qui va marquer toute la suite, c'est la façon dont elles vont se situer et dont elles vont démarrer cet accouchement. C'est-à-dire que, je dirais, c'est la façon dont elles se présentent à leur accouchement. En dehors de ce « je suis plutôt pour, plutôt contre », il y a quelque chose qui devra choisir. Soit je vais participer, soit je vais être active, soit je vais essayer de voir ce que je peux faire. Quel est, comme dans l'alpiniste qui va faire un pas à pas, quel pas à pas je vais faire à chaque contraction. Soit eh bien, je vais être passive et je vais laisser faire et puis on verra bien. Or, ça va changer beaucoup de choses. Et y a, de la même façon qu'il y a, je dirais, une mise en travail physique avec les contractions, on appelle ça la mise en travail, je crois qu'il y a réellement quelque chose qui doit décider s'il se met en travail psychiquement ou pas. Il y a réellement une mise en travail psychique possible, mais facultative. Se fera-t-elle, ne se fera-t-elle pas, ça dépend de ce que la femme décide. Mais une fois que cette chose, moi je pars du principe qu'elles ont décidé d'en découdre avec l'accouchement, qu'elles ont décidé, puisque je vous ai dit, j'ai choisi une catégorie pour vous parler de celle-là, je pourrais vous parler des autres. Non, il a fallu décider une, j'ai choisi de vous parler de celle qui a décidé de s'engager à fond, comme cet alpiniste qui dit, moi je ne veux pas souffrir en montant au Mont Blanc, mais je veux monter, je veux dépasser quelque chose de moi, et je veux que ce soit une grande aventure. Donc on va partir avec celle qui a décidé d'en découdre un peu, et de s'affronter non seulement à je suis pour ou contre, mais de se mettre en travail psychiquement. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se retrouver dans la deuxième étape, qui est l'effacement et la dilatation, la deuxième étape de l'accouchement. Et l'effacement, ça va être quelque chose qu'on connaît bien dans tout travail psychologique. Vous savez, dans tout travail psychologique, par exemple en psychanalyse, on vous met sur un divan. Enfin, moi je vous le dis à ma manière parce que je ne suis pas psychanalyste. Moi j'ai fait une psychanalyse, mais j'en parle pas du tout d'un point de vue théorique. Je connais très mal la théorie, mais je vous dis comment moi je l'ai vécu, c'est plus simple, comme ça je prends moins de risques. Pour moi, quand on me met sur un divan et que j'ai un petit carré de plafond blanc en dessus de ma tête, ça me permet de projeter toute mon histoire. C'est-à-dire qu'on est en train de me couper un peu du monde extérieur, on me met devant un plafond blanc où j'ai projeté tout mon monde intérieur. Donc c'est une des solutions qu'a trouvé la psychanalyse, enfin cette exploration du monde intérieur, pour nous mettre le plus possible en contact avec notre monde intérieur. Bien, la femme enceinte, elle va avoir, qui accouche, elle va avoir quelque chose qui est extrêmement complexe à faire, c'est d'une certaine façon se couper du monde extérieur, mais pas totalement bien sûr, mais se reculer, voilà, c'est plus juste, se reculer du monde extérieur et toute l'agitation de la salle d'accouchement pour rentrer dans son monde intérieur. Et là, je ne vous parle pas de ma théorie à moi, je vous parle de ce qu'elles disent, je vous transmets ce que certaines m'ont dit. C'est quelque chose qui doit tout d'un coup décider, et c'est une décision d'aller voir ce qui se passe dedans, d'aller observer ce qui se passe dedans, parce que c'est à partir de là qu'elles pourront faire quelque chose. Et que le père, bon, je passe juste là-dessus, mais le père aura bien sûr un rôle de protection de cette espèce d'endroit de silence, d'une certaine immobilité, où cette femme pourra faire ce travail intérieur, se tourner vers ce qui se passe en elle. Et il va falloir que, donc dans tout l'effacement, je dirais, c'est un peu l'effacement du monde extérieur au profit du monde intérieur. C'est aller voir ce qui se passe dedans. Et puis ensuite, la dilatation, ben, ça va être cette espèce, comme ce pas à pas de l'alpiniste qui monte au Mont Blanc, ce pas à pas de la femme qui accouche dans cette dilatation, ce pas à pas de chaque contraction. Et je vais essayer de vous faire traverser un petit peu qu'est-ce qui se passe au moment où il y a une contraction, qu'est-ce que ça monte, qu'est-ce que ça fait monter dans le monde intérieur. Eh bien, quelque chose qui m'avait beaucoup, que j'avais fait au début avec les femmes, je vais essayer de vous faire sentir ça, c'est quand une me disait, c'était à 5 cm, 4 cm, elle me disait, mais oh, j'en peux plus, c'est terrible, c'est horrible, ça fait trop mal. Alors je leur disais, bon, d'accord, ben, on peut faire la péridurale, c'est possible. Mais je vais vous poser une question. Parce qu'elles sont en train de me dire, oui, combien de temps ça va durer, puis ça fait combien de temps, ça fait des heures que ça dure, j'en peux plus, etc. Dites-moi, dans combien de temps. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai tout entendu, maintenant, moi, je vous pose une question. Vous oubliez, depuis combien de temps vous êtes là, vous oubliez combien de temps ça va durer, là, maintenant, dans l'instant, tout de suite, là. Puis je les regarde dans les yeux, dans l'instant, tout de suite, là, vous avez mal, là, maintenant. Oubliez tout, là, tout de suite. Elle me dit, non, non, tout de suite, non. Alors, j'ai dit, ah, tiens, c'est bizarre. Quand on les ramène dans l'instant présent, elles ont, semble-t-il, moins mal. Que quand on les laisse partir dans combien de temps ça va durer, ça fait déjà 4 heures que ça dure, etc. Donc Et quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est, et c'est une technique que j'ai fait par hasard, hein, et je prétends pas que c'est une bonne chose. Hein. C'était la maladresse d'un gynécologue qui fait comme il peut devant une femme qui a mal, c'est tout. Mais ça m'a quand même appris un truc, c'est que quand on les ramène dans l'instant présent, ben, c'est bizarre parce qu'elles ont moins mal. Et il y a aussi quelque chose que je me posais comme question, qu'on se posait comme question, c'est la contraction, elle a toujours la même intensité, en gros. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, ça varie un peu, mais c'est la même intensité. Et on se disait, mais pourquoi une contraction du début de travail n'a pas le même effet qu'une du milieu de travail, qu'une du fin de travail, alors que c'est la même contraction? Alors vous me direz, c'est évident. Oui, mais quelquefois, les évidences, ça vaut le coup d'essayer de les dépiauter, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses très intéressantes derrière les évidences. Et en fait, ce qui se passe, ce qu'on a aperçu, c'est que chaque fois qu'il y a une contraction, il y a quelque chose qui monte dans le monde intérieur de l'ordre de ce qu'on appelle, nous, le commentaire. C'est-à-dire qu'en face de ce qui est la contraction, qui est une tension du ventre neutre, il y a quelque chose qui est de l'ordre du commentaire, c'est « je ne vais pas y arriver, on m'a toujours dit que j'étais incapable d'accoucher, et puis ça fait déjà 4 heures que ça dure, et puis ça va durer encore combien de temps ?» Il y a tout un tas de paroles qui arrivent, et dont elles nous parlent, et qui sont que l'aspect émergé de l'iceberg, qu'on peut nous apprécier quand elles nous disaient, tout à l'heure je disais, mais elles nous disent « je vais mourir », mais il faut comprendre ce qui se passe en dessous pour dire cette phrase. Et là, elle était en train de nous dire plein de choses qui étaient que l'émergence de toute une partie de ce qui se passait à l'intérieur d'elle-même. Et ce qui se passe dedans, c'est tout un tas de commentaires qui sont mis à l'œuvre. Et si une femme ne se retourne pas vers ce monde intérieur, elles n'ont aucune chance de l'apercevoir. Elles n'ont aucune chance d'apercevoir ces commentaires, donc aucune chance peut-être d'en faire quelque chose. Et on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Et bien d'abord, il faut apercevoir ces commentaires. Et puisqu'on est dans un salon sur la psychologie, sur la psychanalyse, ce que je vais vous dire va vous paraître peut-être plus évident que d'habitude, qu'aux autres, mais c'est évident que ces commentaires, ils parlent de l'histoire de cette femme, ils ne parlent pas d'autre chose. Ce que l'on peut se raconter dans sa tête ne parle que de nous-mêmes, en rien de la chose en elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, ces femmes qui sont en train d'observer et de voir leurs commentaires, il ne s'agit pas de les enlever les commentaires, il s'agit de les voir se dérouler, il y a quelque chose qui au bout d'un moment, à force de les voir et la répétition des contractions, se rend compte que ça parle d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle voit ses commentaires à l'œuvre, et rien que le fait de les voir diminue la douleur, d'ailleurs, un petit peu. Pas complètement, mais diminue un peu la douleur. Le fait d'essayer d'observer ce qui se passe dans le monde intérieur en face de cette tension du ventre a déjà un effet sur l'intensité de ce qu'on pourrait appeler la douleur, si déjà on est dans la douleur, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais elles vont donc apercevoir, la première chose qu'elles vont faire, c'est apercevoir ces commentaires. D'ailleurs, ces commentaires qui se répètent, elles vont apercevoir qu'en fait, ces commentaires parlent de leur histoire. Elles vont dire, mais oui, mais c'était déjà comme ça. Peut-être pas, elles ne vont pas le dire dans l'instant, mais elles vont se rendre compte que c'est quelque chose qui parle déjà d'un autre événement passé qui est de même nature, ou bien mais pas forcément accouchement d'ailleurs, d'autre chose. Et tout d'un coup, elles vont rentrer dans, mais c'est de moi que ça parle. Je ne suis plus en train de parler de mon accouchement. Je suis en train de parler, à l'occasion de mon accouchement, de moi-même. C'est-à-dire que, je dirais que la contraction utérine, plus la présence à soi, fait apercevoir d'abord les commentaires, et puis tous ces commentaires s'organisent pour tout d'un coup être devant son histoire. C'est-à-dire que la femme est devant quelque chose qui parle à elle-même, d'elle-même. Et cette chose, de tout d'un coup s'apercevoir qu'on n'est plus en train de parler de ce qui se passe dans le présent, mais on est en train de projeter sur le présent une vieille histoire passée, quelque chose qui est sa propre histoire. Et cette chose, est, quand les femmes en parlent, quand elles parlent de cet instant-là, elles disent que c'est comme si tout d'un coup le puzzle... Elles étaient devant une espèce de pièce de puzzle qui s'était mise en place. Et d'un coup, elles se voyaient elles-mêmes dans cette histoire. Et que ça a amené une espèce d'empathie pour elles-mêmes, une espèce d'amour pour soi. Et que du coup, quelque chose qui s'effondrait de la douleur. Et qu'elles se retrouvaient, de toute façon, tout à fait neutres dans l'instant. C'est-à-dire que ça efface cette espèce d'inquiétude pour le futur, combien de temps ça va durer. Ou cette inquiétude, ça fait déjà plusieurs. Ou ressasser le passé, ça fait déjà des heures que ça dure. C'est-à-dire que nous, on passe notre temps à ressasser le passé, ou nous inquiéter du futur, c'est assez rare qu'on vive l'instant. Et tout d'un coup, ça les ramène dans l'instant. Donc si vous voulez, il y a tous ces commentaires qui les attirent, ou bien dans le futur, ou dans le passé, s'estompent à cause de ce travail qui a été fait, de voir les commentaires, apercevoir son histoire, et s'accepter, se recevoir dans cette histoire, eh bien, c'est comme si ça s'effondrait, et qu'elles étaient dans l'instant. Et très bizarrement, dans cet instant, elles vont non seulement ne plus sentir la douleur, mais elle va rencontrer quelque chose qui est incroyable, mais qui est en train de ce qui se passe vraiment, c'est cette intimité avec cet enfant. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas vous le traduire mieux que ça, parce que je ne suis pas femme et je ne l'ai pas vécu, mais ce qu'elles disent, c'est que puisque tout d'un coup, tous ces commentaires se sont effondrés dans tout ce qu'ils provoquaient d'inquiétude et de douleur physique, parce que c'est eux qui provoquent la douleur physique, en grande partie, pas à la fin, mais en grande partie à ce moment-là, il y a quelque chose qui tout d'un coup rentre en intimité avec son enfant, et cette intimité est quelque chose qui est à l'origine d'un immense plaisir. Comment ça se passe? Je ne sais pas, mais je sais que ça se passe comme ça. Donc elles sont, je vous disais, devant le fait qu'elles projetaient dans l'instant quelque chose qui n'appartient pas à cet instant, mais qui était de leur passé. Je ne sais pas si ça vous parle, je vais essayer de vous le résumer en vous disant que parce que c'est vraiment le point principal du travail, la plus longue, et j'allais dire que autant la première étape, c'est se situer dans quelqu'un qui a envie de monter son Himalaya, d'en découdre, autant après l'effort, ça va être de dire, bon d'accord, il faut que je rentre en moi-même et que je vois ce qui se passe. Après, ça va être, comme je vous le disais, entrer en soi, voir ses commentaires, les voir jusqu'à ce que ça s'organise pour tout d'un coup que ce soit une évidence que ça parle de soi et non plus de l'accouchement. Donc on est en train de parler de soi, de ses peurs fondamentales, et que se reconnaissant là-dedans, il y a quelque chose qui s'effondre de cette crainte, de cette peur, et qui s'y retrouve devant ce qui est. C'est une contraction, toujours de la même intensité, qui est une tension du ventre, et que cette tension est en train de faire avancer cet enfant. Et que cette chose, je ne sais pas comment, mais fait que ces femmes se sentent dans une grande intimité de plaisir avec ce qui est en train de se faire dans cet utérus qui se contracte dans cet enfant, dans cette descente de cet enfant et dans cette progression de cette dilatation. Donc je crois qu'il y a deux solutions dans cette étape-là. Soit celle pour qui ces contractions entraînent des commentaires et ces commentaires ne vont pas être vus et donc il va y avoir de plus en plus de douleur, qui peut être vaincue par d'autres techniques physiques, bien sûr, ou tout au moins accompagnée par d'autres techniques physiques qui ne sont pas l'axe que j'ai pris moi. Et puis il y a celles qui vont faire cet effort de voir ce qui se passe dedans et faire tout le travail dont je viens de parler. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, même si ce que je viens de vous dire marche, ça marche jusqu'à un certain point. Et il y a un certain point où ça ne marchera plus, c'est à la fin du travail. Et c'est assez étonnant, on en discutait justement à Marseille avec des sages-femmes hier, c'est assez étonnant, on disait, mais vous savez, en fait, il n'y a pas besoin d'examiner les femmes pour savoir combien de centimètres elles en sont, parce qu'en fonction de ce qu'elles manifestent, on sait très bien où en est le bébé, on sait très bien où elles en sont de la dilatation. Et il y a un moment où, de toute façon, même si ce travail a été fait le mieux possible, en fin de travail, alors plus ce travail a été fait, plus ça va être tard, ça va être vers 9-10 centimètres, si ça n'a pas été fait, ça va être plus tôt. Il y a un moment où là, ça devient trop. De toute façon, ça devient trop. Je crois que c'est comme un sportif bien bien préparé, si vous voulez. Il y a un moment où même s'il est bien préparé, même s'il a fait tout ce qu'il fallait, il est au bout de ses forces. Et au bout de ses forces, il n'y a plus de force. Quoi qu'on ait fait, il n'y a plus de force. Et bien à un moment, ils arrivent au bout de leur force. Il n'y a plus de force. Et c'est extrêmement intéressant, cette chose, parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette troisième étape, qui est l'étape de la naissance, de l'expulsion. Parce que là, les femmes disent des choses qui sont assez fortes, assez étonnantes pour un esprit cartésien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce sentiment qu'elles vont mourir. Ce sentiment de mourir, et elles disent « je vais mourir ». Et on sent bien qu'il y a une incompréhension entre nous, les techniciens, qui pensons que pas du tout elles vont mourir, et elles qui disent « je vais mourir », et que nous on dit non, et elles disent si. Et si on essaie de rentrer dans ce qui se passe à ce moment-là, eh bien, il y a une expérience pour celles qui s'affrontent à cette expérience qui est une des plus fortes qu'on puisse rencontrer dans l'existence. C'est ce sentiment d'épuisement, ce sentiment d'être allé au bout, et ce sentiment qu'il y a quelque chose à faire qui est au-dessus de leur force. Et là, c'est la personne qui m'a permis de comprendre ça, c'est un très vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Le Boyer, pour ceux qui en ont entendu parler, et qui est maintenant, je ne sais pas s'il est encore vivant d'ailleurs, mais que j'ai rencontré il y a un certain nombre d'années, et qui parlait, lui, il appelle ça le face-à-face avec la mort. Et je crois que réellement, elles disent « je vais mourir » parce qu'il y a une espèce de face-à-face, qui est pas un face-à-face physique, bien sûr, mais qui est un face-à-face parce que physiquement, elles savent bien que c'est pas possible, mais c'est traduit comme ça dans leur monde, mais c'est pas de ça dont on parle. C'est quelque chose qui va naître de ce sentiment d'être allé au bout, ce sentiment qu'il y a quelque chose à faire et que ce n'est plus possible, et que de toute façon, on est dans une impasse complète et n'ayant pas de solution, il n'y a plus qu'à se laisser mourir. Or, la seule solution possible, elle va naître justement du fait de tout ce travail qui a été fait à titre préliminaire, qui est tout ce travail, toutes ces contractions qui sont venues et où observer ces commentaires dont je vous ai parlé, d'accord, et que c'est comme, je reviens plus là-dessus, je l'ai dit deux, trois fois, et que je vous dis que bizarrement, je ne sais pas très bien comment ça se fait, mais qu'au moment où elles étaient au bout de ce travail, de ces commentaires et de se mettre en paix avec, ça s'est effondré, et elles se retrouvaient devant elles et leur enfant. Or, c'est extrêmement important, ça, parce qu'au moment où il n'y aura plus de solution, c'est à cause de ce travail que la dernière étape va être possible. Et je vais essayer de vous traduire ça avec des mots peut-être bien maladroits, mais il y a vraiment un point de blocage là. Il y a vraiment un point de blocage dans ce face-à-face avec la mort où il y a où il n'y a plus de solution. Et parce qu'elles ont, depuis, ça fait déjà des heures que dure le travail, et qu'elles ont chaque fois ce réflexe d'observer ce qui se passe dedans, rappelez-vous, depuis le début, et que derrière, au début, elles observaient les commentaires, après elles étaient en contact avec leur enfant, eh bien, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais ça se passe comme ça. Il y a quelque chose de fulgurant qui va arriver, une espèce de pensée fulgurante qui monte de l'intériorité qu'elles étaient en train de continuer à percevoir. Et elles vont découvrir tout d'un coup l'importance incroyable qu'il y a à mettre au monde cet enfant. Et réellement, moi j'ai toujours été sidéré depuis de très longues années, en tant qu'accoucheur, même au début ne comprenant pas grand-chose à l'accouchement, du fait qu'on disait aux femmes, vous savez, on dit pousser, 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 on insiste, pousser. Alors là, la gynécologue s'y met, la sage-femme, la péricultrice, elle est là, et on aimerait faire quelque chose, tout le monde pousse, sauf la femme, bien sûr. Et on se rendait compte qu'il y a quelque chose où elles ne veulent pas pousser, quelque chose qui ne veut pas. Elles disent, je ne vais pas y arriver, c'est là où elles disent, je ne vais pas y arriver, je vais mourir. On sent qu'il y a un truc qui ne passe pas, quoi. Et qu'il y a une espèce de point de blocage, et ce point de blocage, pour ces femmes, il va amener à quelque chose qui, d'un coup, cette espèce d'intuition fulgurante que ce qui compte le plus, c'est cet enfant et qu'il faut qu'il naisse. Et là, je ne peux pas aller trop loin parce que je crois qu'il n'y a que les femmes qui l'ont vécu qui pourraient en parler vraiment parce que c'est une expérience extrêmement intime. Mais il se passe des choses où elles aperçoivent des choses de leur enfant qui sont assez étonnantes. Du sentiment de l'importance de cet être, non pas dans ce qu'il va faire de son avenir, c'est pas une boule de cristal, c'est pas ça du tout, hein, mais c'est quelque chose qui est intimement convaincu de l'importance de ce qu'elles ont à faire en faisant naître cet enfant, et qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est que ça va modifier totalement l'état antérieur, et que ça bascule en un millième de seconde, et je pense que les gens qui sont professionnels de la naissance le reconnaîtront, c'est que tout d'un coup, elles n'ont plus mal du tout, alors qu'elles étaient au sommet du supportable, elles étaient épuisées, elles ne sont plus du tout épuisées, elles ne sont plus du tout dans la douleur. En un millième de seconde, quand cette chose fulgurante arrive, ça bascule d'un autre côté. Ce qui était douleur n'existe plus, ce qui était plus de force disparaît, et tout d'un coup elles ont toute leur force, elles ont toute leur puissance. Et moi c'était quelque chose qui m'a toujours sidéré, ce moment où tout d'un coup on est plaqué contre le mur tellement c'est fort ce qui se passe dans la salle d'accouchement. Et moi j'ai appelé ça la tigresse. Quand elles deviennent comme ça, j'appelle ça les tigresses, parce que en même temps elles sont d'une immense douceur, en même temps d'une immense force, et plus personne ne bouge dans la salle d'accouchement tellement on est tenu en respect. Et je crois que cette espèce d'intuition fulgurante est à l'origine de tout, du basculement, parce que l'importance de pousser cet enfant et de le mettre dans la vie fait que la douleur disparaît, je vous le disais, et toutes les forces reviennent et qu'elles sont capables de pousser comme jamais. Et on voit la différence au moment où elles poussent. Là où tout à l'heure elles poussaient pour nous faire plaisir, là il n'y a plus besoin de rien dire. Et on sent, je ne sais pas, il y a des muscles qui doivent se contracter, qui ne se contractaient pas jusque-là, je ne sais même pas lesquels, mais réellement, là l'enfant sort. Or, c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que si on arrive à mettre en route des forces aussi puissantes, on a beaucoup moins besoin de la technique. C'est-à-dire que cet enfant va naître dans des circonstances beaucoup plus faciles et au fond dans une beaucoup plus grande intimité avec sa mère. J'ai le sentiment de vous parler pas très très bien de tout ça, j'ai fait tout ce que je peux, mais parce que moi je le vois, je l'entends, je sais que c'est comme ça, mais je crois qu'il faudrait vraiment que ce soit des femmes qui s'occupent de tout ça et que les hommes les laissent parler, mais j'en ai pas qui peuvent venir aujourd'hui. Je voudrais vous parler rapidement de la suite, parce que je crois qu'une fois que ça a été vécu, le reste va s'enclencher tout seul. Je crois que le point ultime auquel il fallait arriver, c'était ça, c'était ces trois étapes qui construisent, où il y a vraiment une volonté à mettre, il y a quelque chose qui se franchit et qui n'est plus du côté de la douleur mais du côté du plaisir. Et je disais bien que la même façon qu'un alpiniste peut souffrir en montant son Mont Blanc et que c'est ridicule de souffrir, de la même façon une femme peut souffrir en accouchant, mais c'est ridicule de souffrir, il n'y a pas à souffrir, mais elle peut faire un effort, ce qui n'est pas la même chose. On peut soit faire un effort soit souffrir, mais je pense qu'il faut que ça reste dans l'effort. Que de temps en temps ça parte sur la souffrance, c'est possible, mais que si la souffrance devient inutile, on a tous les moyens techniques et qu'il faut utiliser tous les moyens techniques possibles pour qu'une femme ne souffre pas en accouchant. Et je suis de ce point de vue-là un grand partisan de la péridurale quand elle est utile et nécessaire, je rajoute bien évidemment. Il faut comprendre que ensuite, une fois que cet enfant va être né comme ça, c'est une espèce de plaisir immense que cette femme va vivre. Elle va vivre quelque chose d'absolument incroyable du point de vue du plaisir. Dont seule celle qui l'ont vécu pourraient témoigner, qui est de l'ordre, je sais pas, c'est bien bien au-dessus de tout ce qu'on peut vivre dans la sexualité. Si vous voulez, la sexualité, c'est qu'une petite chose par rapport du plaisir de la sexualité, de l'orgasme, j'allais dire. Mais ça n'a rien à voir même avec ça. C'est presque ridicule de le comparer, tellement c'est plus puissant, plus beau, ça prend tout le corps. Quand je faisais des conférences au début sur la naissance, j'avais toujours peur quand je disais que peut-être les femmes pouvaient éprouver un immense plaisir parce que je l'avais vu dans l'accouchement. Je me disais, tu vas te faire ramasser par la moitié des gens qui sont là, les femmes en particulier. Et puis je ne me suis jamais fait ramasser en un certain nombre d'années de conférences. Par contre, j'ai toujours eu des femmes qui venaient après et qui me disaient, vous savez, c'est fantastique ce que vous dites, parce que j'ai jamais osé le dire, mais moi, l'accouchement, ça a été le moment le plus beau de ma vie. J'ai vécu une expérience à l'expulsion qui était rien à voir avec tout le reste. Donc ça fait du bien que quelqu'un le dise, parce que nous, on n'ose pas toujours le dire. Donc le reste, je vais passer sur les autres étapes de la suite, mais parce qu'elles sont données gratuitement. Pour juste vous dire en conclusion que c'est pas une utopie ce que je vous dis, hein, c'est quelque chose de réel, les femmes l'ont vécu. Moi je suis en train d'essayer de le mettre en mots, on est en train de l'écrire, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible à tout le monde, à condition de se préparer. Que par contre, il ne faut pas imaginer que la préparation en 6 séances est quelque chose de sérieux, c'est une injure faite aux femmes, et qu'on prépare aucun sportif aussi mal. On ne prétendrait pas préparer un sportif à une épreuve quelconque aussi mal, donc c'est une injure qu'on vous fait, et j'espère que les associations de femmes vont de plus en plus bouger pour demander ce qui est le juste, c'est qu'une vraie préparation. La vraie préparation, elle commence pour moi par une information avant d'être enceinte, ensuite, c'est mon schéma à moi, mais on pourrait le discuter, hein. Ensuite, un week-end par mois pendant 9 mois, et 2 heures par semaine, pas plus, pour réactualiser les choses, et là on a une préparation qui serait très, très sérieuse. Pour terminer, je voudrais vous dire que donc il y a des femmes qui se sont bien sûr qui sont en train de s'intéresser à tout ça et qui ont fait des associations. Celles qui tournent autour de tout ce que je fais, elles s'appellent les drôles de femmes, et donc elles font de l'information pour le public. Et puis nous, pour les professionnels, on a une autre association qui s'occupe des professionnels pour leur expliquer un petit peu, pour s'ils ne le savent pas ou si ça les intéresse, qu'il y a un autre aspect, une autre façon de voir la naissance, l'accouchement, mais qu'il y a bien sûr d'autres gens qui travaillent dans les mêmes directions et que c'est toujours très sympathique de se rencontrer en plus pour échanger. Mais donc on a fait d'ailleurs à Paris, il y a un an et demi, une réunion avec des psychanalystes et tout un tas de personnes sur la naissance pour un peu discuter entre nous, pour que je leur explique un peu ce qu'on avait découvert, ce qu'on avait compris, et puis qu'on puisse échanger et s'enrichir les uns les autres. Voilà, eh bien, je vais en terminer avec ça. Moi, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps après si vous avez des questions, mais après. Par contre, ma fille sera sur l'endroit où il y a les livres pour vous donner des contacts pour ceux que ça intéresse. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Puis-je demander son avis au docteur Cheras ?
Mais bien évidemment.
Non, tout ça avait dit est très séduisant parce qu'on revit tout à fait ce qu'on connaît tous en salle de travail. Et c'est vrai que, bon, en service, on a une attitude pas du tout aussi. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, pas aussi performant dans ce que l'on fait, mais c'est vrai que des idées qui sont très comparables aux vôtres, moi, ça me passionne ce que vous dites là. L'obstacle que j'y vois, malheureusement, c'est un obstacle de type institutionnel, en ce sens que pour arriver à organiser effectivement une préparation à l'accouchement qui serait valable, là, on se heurte à des problèmes qui sont des problèmes de budget, de personnel, etc. Mais ça m'intéresse beaucoup. Je vais prendre toutes les coordonnées d'information et de regroupement. Par contre, tout ce que vous avez décrit, tous les professionnels l'ont vécu en salle de travail, c'est vrai. Et on est des hommes, donc on a beaucoup de mal, c'est vrai, à le mettre en mots, à savoir si on a bien compris. Mais je pense que les femmes le vivent comme ça, c'est vrai.
Alors, pour reprendre ce que vous dites, parce que souvent, on me dit que c'est compliqué à mettre en place, moi, je crois que ce n'est pas si compliqué, parce qu'en fait, ça ne change pas grand-chose dans la salle d'accouchement. Moi, je travaille à la clinique Beldon, qui est une clinique très connue pour sa technicité et pour son excès de technicité, peut-être. Et grâce aux sages-femmes qui ont été intéressées par ce que je faisais et qui sont toutes venues en formation, extérieurement, rien n'a changé, tout se passe pareil. Intérieurement, tout a changé. C'est-à-dire que les femmes peuvent vraiment accompagner avec leur conjoint les choses jusqu'au bout comme elles le souhaitent. Et extérieurement, ça ne change pas grand-chose. Ça serait intéressant qu'on en discute. Par contre, c'est vrai, la préparation, Elles ne le font pas dans un cadre institutionnel, elles le font en dehors, et c'est les associations de femmes qui l'organisent. Alors c'est vrai que c'est pas puisqu'il n'y a que 8, je crois, séances remboursées, elles ne sont pas remboursées de l'ensemble, mais je crois que, moi je prétends que c'est le meilleur investissement à la préparation. Ça évite des milliers de problèmes en prénatal, en postnatal et dans l'accouchement, et réellement elles y gagnent, et c'est elles qui le disent, hein, ça c'est pas moi, hein, elles y gagnent énormément, c'est un très très bon investissement. Attendez, on va vous donner le micro, parce qu'en plus j'ai une grippe, donc j'entends pas grand chose.
Ici, on vient d'entendre tout ce qui était vers le sens de vers ce qui allait vers une explosion de vie, et donc essayer de comprendre tout cheminement, tout ce qui peut se passer dans le psychisme d'une femme. Que se passe-t-il alors s'il y avait non pas un enfant vivant, mais un enfant, moi je pensais à un enfant mort-né. Et que se passe-t-il dans le psychisme de la femme à ce moment-là par rapport à un accouchement, si elle doit accoucher d'un enfant qui est
mort? Oui, je comprends. On ne pourra pas continuer trop longtemps. Écoutez, c'est un sujet absolument passionnant, et en plus j'allais dire, je viens de m'y affronter il n'y a pas longtemps, depuis très longtemps. Moi j'ai commencé par le diagnostic anténatal, ma vraie, je ne peux pas tout vous dire, hein, mais moi j'ai commencé par le diagnostic anténatal et par le fait que des femmes perdaient leur enfant et qu'on savait, on était complètement perdus pour les accompagner, parce que là la médecine est impuissante, l'enfant est mort, on ne sait pas quoi faire. Et dernièrement j'ai accompagné une femme qui avait suivi toute la préparation à la naissance pour le premier, donc qui avait accouché avec ce que je viens de vous dire, comme je viens de vous dire, et pour le deuxième, à 32 semaines elle a fait une infection ACMV, un virus, et l'enfant a commencé à est mort à 34 semaines, et elle m'a téléphoné alors qu'elle venait de découvrir qu'il allait mourir à l'échographie, en me disant qu'est-ce que je fais. Et j'avoue que je connaissais un petit peu le processus de ce qu'il fallait faire, mais je ne peux pas vous le détailler là. Et je me suis dit, mais c'est très compliqué. Et je me suis dit, il faut vraiment que je l'accompagne. Donc je me suis arrêté dans tout ce que je faisais et j'ai fait que essayer de répondre à ses questions. Et elle m'a appelé toutes les heures à peu près. Vous me croirez peut-être pas, mais ça fait rien. J'avais déjà vu des femmes qui retournaient la chose qui est d'une douleur immense. Hein, perdre un enfant est une douleur une des plus fortes qu'on puisse vivre. J'en avais vu qui retournaient ça en 10 jours. Bien accompagnées, qui retournaient ça en 10 jours. Elle l'a retourné en 2 heures. C'est-à-dire que 2 heures après, elle n'était plus la même. Après, c'était un cheminement pendant une semaine. Et j'ai une semaine pour le plus dur. Et ensuite, maintenant, ça s'est passé en juillet et je l'ai encore régulièrement au bout du fil. Je vous jure que c'est possible. Moi, si vous avez sûrement entendu parler de la résilience, je sais toutes les discussions qu'il y a autour de ça. On ne parle peut-être pas de la même résilience. Moi, je suis certain, quand un événement comme ça arrive, il y a possibilité d'en faire quelque chose, et que ce ne soit pas une douleur à vie, mais que ce soit possibilité d'en faire quelque chose, et très rapidement. Que ce soit compliqué, je suis tout à fait d'accord que ça ne marche pas tout de suite et pas tout le temps, je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, je savais que c'était possible, je le sais depuis le mois de juillet, que c'est possible, même en 2 heures. Mais qu'après, ça nécessite un accompagnement. Mais je ne peux pas détailler plus parce qu'on empiéterait sur la suite.
Cela m'est arrivé, j'ai mis 10 ans.
Ah ben merci, alors vraiment. Hein. Merci de votre témoignage. Écoutez, il faut que vous soyez nombreuses à le dire, parce que vous comprenez, si personne le dit, alors si personne le dit, tout le monde croit qu'il faut souffrir dans toutes les circonstances. Donc c'est les femmes. Moi, on ne me croit pas quand je le dis. C'est à vous de le dire. C'est à vous.
Merci, messieurs.